moi. Mais bon, ça c'est pas grave, la fatigue. Pendant que le Seigneur est là. Le prédicateur n'est-il pas là? On est marqué à la foi, hein. Alors bonjour, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous annoncer donc la parole de Dieu. Et je vous invite tout de suite à prendre vos Bibles en Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Eh bien, le livre d'Ésaïe a été appelé l'évangile de l'Ancien Testament. En Ésaïe 53, le prophète Ésaïe nous décrit avec foi une personne rejetée, mais qui finalement triomphera glorieusement. Le prophète parle comme étant le représentant d'Israël. Il nous transporte au moment où le peuple, après avoir rejeté son Messie, ouvrira enfin les yeux sur son Rédempteur. Israël confesse son incrédulité et s'accuse d'être demeuré sourd aux révélations divines. Les païens, qui eux n'avaient pas entendu parler du serviteur de Dieu, ont cru en lui. Il y a un avenir pour Israël, mais pas sans Dieu. Dieu veut sauver Israël, et nous qui sommes présents aujourd'hui, et qui croyons, sommes au bénéfice de l'œuvre salvatrice de l'Éternel. Alors je vous invite à prendre Ésaïe 53, nous l'avons. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et oublié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Connaissez-vous le serviteur de l'Éternel ? Nous allons voir qui est le serviteur de l'Éternel et l'œuvre qu'il a accomplie. Pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà la Bible, vous vous êtes rendu compte que le serviteur dont il est question est bien sûr Jésus-Christ, qui est né humblement. Mais c'est aussi lui au travers duquel l'Éternel manifeste son plan merveilleux de rédemption pour l'humanité. Alors il y a quatre aspects de la vie et de l'œuvre du serviteur que nous verrons ensemble. Il y a le serviteur humble et méprisé, le serviteur brisé et crucifié, le serviteur mort et enseveli, et le serviteur ressuscité et glorifié. Regardons de plus près la personne de Jésus-Christ et le premier aspect de sa vie et de son œuvre, le serviteur humble et méprisé. Le verset 1 nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Mais de quoi parle Ésaïe ? Quel est le message qui nous est annoncé ? Eh bien, c'est celui de la bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ, le serviteur juste, mort pour des pécheurs. Sur terre, Dieu était en Christ. Cela signifie que Jésus est divin. L'Esprit de Dieu demeurait dans un corps charnel en la personne de Jésus-Christ, venu sur terre pour réconcilier les hommes avec Dieu par lui. Et ce message est celui auquel tous les hommes devraient obéir et y adhérer de bon cœur, puisque de notre réponse dépendra l'endroit où nous passerons l'éternité. Annoncer la parole de Dieu, c'est ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont fait. Puis Jean-Baptiste annonçait la venue du Messie en la personne de Jésus-Christ. Par la suite, c'est ce que les apôtres ont fait avec assurance. Jésus-Christ est la parole incarnée. Son incarnation en tant que vrai Dieu et vrai homme a manifesté la grâce et la vérité. La question est posée. Qui a cru ? Cette question posée laisse entrevoir une réponse négative. Y aurait-il un refus du plus grand nombre à croire ce qui était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Le bras de l'Éternel symbolise la puissance divine manifestée dans l'œuvre du serviteur, accomplissant le plan de rédemption pour l'humanité désireuse. Malgré tant de miracles que Christ avait faits auprès de son peuple, ils ne croyaient pas en lui. Les Juifs ont rejeté leur Messie. Et les hommes du monde entier, le Dieu qui peut les sauver. Ésaïe 53, 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il s'est élevé. Le Fils de Dieu s'est élevé devant Dieu le Père, comme une faible plante. Comme une faible plante fait référence à la jeune pousse qui croît progressivement en se laissant guider vers la lumière. Elle n'aura de cesse que de dépendre du milieu dans lequel elle évolue. Ici, c'est Christ qui s'élève humblement et dépend de Dieu devant lequel il grandit. Comme un rejeton, on peut lire dans ce verset. Eh bien, cela fait référence à un rejet qui dépend de la plante mère, comme le serait le stolon du fraisier ou le sarment de la vigne. Le rejeton en français signifie aussi le fils, et cela symbolise Jésus-Christ qui est attaché au Père, à son Père. Il est un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jérusalem est considérée comme stérile et désolée, une terre assoiffée. Et Christ y est présent à un moment où Israël connaît la domination des Romains. Aussi, la terre d'Israël n'avait pas connu de prophète depuis longtemps et elle avait soif de changement. Christ n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Le côté esthétique n'est pas là pour nous attirer. Ni strass, ni paillettes, loin des plateaux de télévision. Il s'agit là d'un autre modèle. Je ne crois pas à cette image de Jésus que nous montre le cinéma, ce Jésus aux cheveux longs qui fait craquer la plupart des femmes. Le texte nous dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et Isaïe, en Isaïe 52, verset 14, nous dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. C'était un homme lambda, ce qu'il y a de plus normal, si ce n'est qu'à la croix, son aspect différait de celui des hommes. Il était défiguré, méconnaissable. Ce n'était pas une revue de mode, et il n'aurait pas fait la première de couverture d'un magazine People. Ça aurait plutôt été la presse à scandale. Quoiqu'un scandale dont on préfère ne pas entendre parler. Dieu ne séduit pas à la manière dont le monde nous séduit. Il cherche à nous attirer à lui, mais d'une toute autre manière. Il le fait en s'adressant à tout notre être. Et ce qui nous attire est sa parole. Nous avons besoin d'entendre et non de voir. Jean 20, verset 29 nous dit, c'est Jésus qui dit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Beaucoup ont vu Christ, ses miracles, mais ils n'ont pas cru. La parole peut procurer la nouvelle naissance, celle de l'Esprit, qui vient demeurer dans le fidèle. Et à juste titre, Israël avait besoin d'entendre ce que Dieu pouvait leur apporter, la paix du cœur et le repos éternel pour l'âme. Ésaïe 53, verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Méprisé et abandonné des hommes. Dès sa naissance, Jésus dut faire face à la cruauté des hommes et à une franche opposition, notamment avec le massacre des innocents où des enfants de moins de 2 ans perdirent la vie par la folie d'Hérode. L'atmosphère de rejet et de haine palpable annonçait la trame dans laquelle Jésus-Christ devait évoluer. Il a connu la solitude durant toute sa vie et le comble de l'effroi prit tout son sens à la croix. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous avons vu qu'il était défiguré. Essayez de regarder quelqu'un qui est défiguré. Ben, je pense même que j'aurais sûrement détourné mon regard si j'avais croisé son visage. Est-ce que s'il avait été plus beau, nous l'aurions considéré? Je ne crois pas. Même les plus grandes stars tombent rapidement dans l'oubli une fois leur mort survenue. Les plus grands noms de l'histoire sont souvent tristement célèbres à cause du mal qu'ils ont fait. Ici, c'est l'inverse avec le serviteur humble. Il est méconnu et n'a rien pour nous plaire. Le « nous » de « pour nous plaire » est pour les Juifs qui ont vécu avec Christ et qui l'ont rejeté physiquement. Pourtant, Dieu était avec eux en chair et en os. Ils l'ont méprisé, ils n'ont pas cru en lui. Aujourd'hui, l'homme fait la même chose qu'eux. Et il en a toujours été ainsi. Alors Dieu nous a annoncé son Fils, le serviteur humble. En tant que vrai Dieu et vrai homme, Jésus-Christ nous a manifesté la grâce et la vérité, bien qu'il fût méprisé. Il est mort pour nos péchés, et là je suis au regret de vous dire que nous l'avons tous méprisé, abandonné, et que nous nous sommes détournés. J'en fais partie, même si aujourd'hui je considère son sacrifice, je dois dire qu'avant de le connaître, je le dédaignais et je suivais ma propre voie. Je ne faisais aucun cas de Jésus-Christ. Il restait un personnage intéressant, mais je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il était venu faire, concrètement. Concrètement, je ne voyais pas en quoi il pouvait venir en aide dans la vie que je menais. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je sais que le Seigneur nous rend participants de son plan de rédemption. Étant réconciliés et en paix avec lui, eh bien, nous pouvons annoncer Christ aux hommes et aux femmes de ce monde qui continuent à le mépriser. Dieu est la lumière de ce monde. Il éclaire nos journées de son soleil. Dans nos forêts, les arbres fortement enracinés témoignent de la direction qu'ils prennent grâce à la lumière et aux bons soins de Dieu. La lumière est un tuteur pour ces arbres. Et comme nous, chrétiens, sommes des enfants de lumière, nous pouvons leur témoigner de ce Dieu qui cherche à nous voir grandir le plus droitement possible. Alors nous venons de voir le premier aspect de la vie et de l'œuvre de Christ, le serviteur humble et méprisé. Regardons le deuxième aspect de sa vie et de son œuvre, le serviteur brisé et crucifié. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Dieu a fait de Christ l'objet de sa condamnation. Christ a été fait péché pour nous, et il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Ce sont toutes les souffrances de l'humanité, le salaire du péché, dont Christ s'est chargé sur le bois, à la croix du calvaire. Ici, c'est le reste des Juifs qui confessent ses péchés et qui se tournera vers Christ, vers la fin de la tribulation. Donc c'est ces 7 années de souffrance qui doivent survenir. Et ces Juifs, tous d'un même cœur, ils diront l'avoir considéré comme puni, frappé de Dieu. La confession du reste des Juifs exprime avec foi l'état d'égarement et le fait qu'ils reconnaîtront Christ et reconnaîtront que Christ a été meurtri pour leur faute. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. le « mais » de « il était blessé pour nos péchés » suggère à l'homme une autre interprétation que ce qu'il pense de la personne du serviteur. Et c'est non négligeable. L'homme devrait considérer que c'est lui-même, c'est sa propre conduite pécheresse qui est à l'origine des blessures infligées au Christ. Le châtiment qui nous donne la paix. L'homme n'est pas en possession de la paix. Il n'en jouit pas. Il la poursuit, il la cherche, il prétend la détenir, mais il ne peut connaître la paix dont il est question ici. La véritable paix, c'est celle d'être ami de Dieu et réconcilié avec lui en obtenant le salut, la paix de l'âme par Christ. Pourquoi cela ? Parce que le cœur de l'homme est horrible et que la colère de Dieu demeure toujours sur l'homme incrédule, non repenti, qui ne se regardera pas humblement comme pécheur, c'est-à-dire comme Dieu le dépeint. Jésus savait que sa mission était celle de se substituer aux pécheurs en servant de rançon. Fait péché pour nous, il prend sur lui la justice. Il fait péché pour nous, il prend sur lui la juste condamnation de Dieu qui revient à chaque individu. Le châtiment est tombé sur lui. Nous bénéficions de la guérison grâce à ses meurtrissures. Alors, pour avoir l'âme sauve et connaître la guérison spirituelle, naître de nouveau, il faut accepter nécessairement le sacrifice de Christ comme substitut pour nos péchés. Quand les croyants seront dans la présence de Christ, la question de la mort sera définitivement réglée et la maladie n'aura plus cours. Les Juifs qui entreront dans le millénium pourront clairement dire qu'ils sont guéris par les meurtrissures de Christ. Aussi, les croyants revêtiront des corps incorruptibles à la résurrection. Et ce n'est que par la foi en Christ et en son œuvre salvatrice pour les péchés qui seront rachetés et affranchis de leur corps de misère. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants. Nous suivions notre propre voie. À l'image des brebis qui peuvent décider d'expérimenter un bout de chemin seul ou accompagné, mais à leur risque et péril. Aujourd'hui, on entend encore dire « à chacun sa voix » ou encore « à chacun sa vérité ». Mais une vérité qui n'est que ma vérité, si elle s'oppose à celle de mon voisin, ne saurait être une vérité au sens strict. La vérité est unique par définition. Alors comment 7 milliards d'individus pourraient-ils être détenteurs de leur propre vérité ? Et s'ils suivent une voie de mensonge ? Eh bien, le mensonge constitue l'une de ces fausses voies suivies par les hommes. Et si nous avons été guidés par d'autres personnes pour commettre des erreurs, où se trouve le droit chemin ? Lorsque l'on suit notre propre voie, nous sommes loin de l'Éternel. Et par notre incrédulité, nous ne reconnaissons pas que loin de Dieu, c'est la catastrophe. Une brebis sans berger suit sa propre voie. Elle pense naïvement que l'herbe est meilleure ailleurs, sans se rendre compte du danger. Chez les brebis, il arrive que certaines se perdent, se blessent ou tombent dans les ravins. Certaines brebis s'aventurent près des champs de trèfle et en consomment en abondance jusqu'à météoriser, c'est-à-dire avoir la panse qui enfle. Et elles trouvent ensuite la mort. Pour l'homme, le danger est ici la mort éternelle, pour qui continue à prendre des chemins détournés, des chemins de perdition, sans reconnaître avoir besoin du bon berger. Il y a un tel pasteur pour les âmes, non faillible, c'est le berger divin, incarné en la personne de Christ. En témoin fidèle qui venait rendre témoignage à la vérité, il connaissait le droit chemin. Il est d'ailleurs le chemin. Il connaît aussi le cœur tortueux de l'homme. Il s'est humilié lui-même pour nous en prenant un chemin de douleur dans un parfait amour. Aujourd'hui, es-tu approuvé de Dieu ? Loin de Dieu, tu te fais du mal et tu en fais aux autres. Tu pourras faire ce que tu voudras, ça n'ira jamais avec Dieu puisque tu es toujours sous le poids de sa colère. Christ s'est humilié en faisant la volonté parfaite de Dieu et est venu pour prendre le châtiment de tes péchés à la croix. Pour que tu puisses connaître Dieu, être acquitté et recevoir la paix. Si tu acceptes son sacrifice, il te soutiendra et t'aidera en marchant dans sa voie avec son soutien. Ne fais pas comme cette brebis qui pense que tout ira bien sans un berger pour prendre soin d'elle. La colère de Dieu repose toujours sur ceux qui refusent d'être réconciliés. Pendant son séjour terrestre, Christ était occupé à l'œuvre de Dieu. Il était occupé à prêcher l'évangile de paix à des hommes rebelles et pécheurs séparés de Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à la croix, à Christ, à son amour pour toi. Quels sont tes péchés ? As-tu pris des mauvaises voies, des voies de garage ? As-tu connu les impasses ? Et tes mauvais choix, quels sont-ils ? Penses-tu avoir offensé Dieu par ta conduite ? Veux-tu continuer à expérimenter la souffrance sans Dieu ? Vers quel espoir ? Penses-tu être maître de tous tes choix ? Es-tu menteur, fumeur, voleur ? Peux-tu t'arrêter par ta propre volonté ? Si oui, ne le fais plus. La tentation n'est-elle pas ingérable par moment ? Si tu n'arrives pas à la surmonter, qui t'aidera à le faire ? Y a-t-il un soutien possible ? Je crois que par la foi en Christ, Dieu peut te soutenir et t'aider à surmonter tes difficultés. Pour nous chrétiens, quels sont nos péchés récurrents ? Dieu ne peut-il pas nous aider aussi ? Échanger sur nos péchés avec nos frères ou sœurs, confesser nos torts et prier peut nous amener bien des victoires dans nos vies. Nous venons de voir le deuxième aspect de la vie et de l'œuvre de Christ, le serviteur brisé et crucifié. Regardons ensemble le troisième aspect de sa vie et de son œuvre, le serviteur mort et enseveli. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été maltraité et opprimé. Christ, le berger, a été identifié tantôt à l'agneau, tantôt à la brebis, à cause de nous, brebis égarés. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il le peut pour le monde. Mais tout le monde le veut-il ? Ce n'est que par la foi que cela est possible. Christ n'a point ouvert la bouche. Jésus n'a pas revendiqué ses droits. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas bronché devant ce châtiment immérité. Le serviteur humilié s'est dirigé vers la mort, avec patience, en acceptant en silence. Christ s'en remet à son Père. Il ne dit pas « c'est injuste ». Il ne se venge pas, il laisse les conséquences à Dieu le Père en lui étant parfaitement soumis. Il a renoncé à ses privilèges divins. Il n'a fait que ce que Dieu lui demandait de faire dans un monde hostile à Dieu et inhumain. À l'image de l'agneau qu'on mène à la boucherie, il a encaissé les coups sans opposer de résistance face à un comité d'accueil belliqueux qui n'a pas fait de traitement de faveur à Dieu lui-même. Ésaïe 53, 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Et parmi les Juifs, ceux de sa génération, qui a cru? La conduite inique des hommes lui a brisé l'âme sur la croix. Il était abattu et a remis son esprit entre les mains de son Père céleste. Il est mort pour les péchés qui sont à l'origine du rejet de Dieu, à savoir l'incrédulité et la rébellion à Dieu. Enlevé par l'angoisse et le châtiment, nous décrit la fin douloureuse et atroce du serviteur brisé qui s'est livré pour nous. Les Juifs n'ont pas prêté foi à toute l'étendue de ce sacrifice voulu par Dieu, bien que Christ fût frappé pour les péchés des siens. Ils n'ont pas voulu croire. Peut-être pensaient-ils que Dieu était de leur côté et qu'ils avaient la baraka. Ésaïe nous dit qu'il a été retranché de la terre des vivants. Le Messie est déjà venu pour le peuple juif. Faut-il pour eux en attendre un autre? Il n'y a pas d'autre serviteur humble, mort par amour pour l'homme, venu pour le sauver de ses péchés en lui offrant la paix. Matthieu 11, versets 5 et 6 nous dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ésaïe 53, 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Pilate a reconnu que Jésus avait été accusé injustement par les Juifs et les principaux sacrificateurs. Il a reconnu lui-même et cela à 3 reprises, qu'il n'y avait rien de coupable en Jésus. Et il avait l'intention de le relâcher s'il ne s'était laissé emporter par les voix criantes de la foule qui voulait sa crucifixion. Jésus-Christ n'a point commis de violence et n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il est impossible que le péché soit présent en Dieu. À la mort de Christ, Joseph d'Arimathée, homme bon et juste, conseiller honorable, fit la demande du corps de Jésus à Pilate. Et il le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Et il fit rouler la pierre devant son entrée. Joseph d'Arimathée était un homme riche. Et on a mis son tombeau avec le riche. Alors Dieu est l'auteur et le créateur de toute vie. Il a envoyé son Fils pour une œuvre d'amour. Cet amour de Dieu pour le genre humain a coûté à Dieu la vie de son Fils bien-aimé. Sur la croix, il a pris ton châtiment. Et personne d'autre que lui n'aurait pu le prendre. Nos fautes nous méritent l'enfer. Mais Christ a donné sa vie afin que tu sois gracié et non condamné. Dieu ne veut pas ta mort, mais il attend de toi le repentir pour tes péchés. Je te souhaite d'être acquitté pour le jour du jugement afin que tu ailles au ciel. Nous savons que Jésus-Christ nous rachète, il est l'agneau sans défaut et sans tache. De plus, il vécut sans commettre de péché. Mais parmi ceux de sa génération, qui croit ? Je vous invite à faire l'effort de parler de la mort de Jésus-Christ, mais aussi de sa victoire sur la mort, comme nous verrons après. Jésus-Christ, l'agneau qui n'a point ouvert la bouche est mort face à ceux qui l'opprimaient. Il est mort pour que nous ne restions pas des brebis muettes sans un témoignage à donner à ceux qui sont malmenés et qui meurent sans espérance loin de Dieu. Si vous êtes angoissé à l'idée de témoigner, dites-vous que Christ est mort dans l'angoisse. Et que si vous le sollicitez, il vous aidera à surmonter ce défi, afin que vous soyez un tremplin pour d'autres. Nous venons de voir le troisième aspect de la vie et de l'œuvre de Christ, le serviteur mort et enseveli. Regardons ensemble le quatrième aspect de sa vie et de son œuvre. Le serviteur ressuscité et glorifié. Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il convenait qu'il en soit ainsi. Dieu devait punir le péché. Et le serviteur s'est laissé crucifier. Il est le médiateur, le moyen que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de tous les hommes. Mais seuls seront sauvés ceux qui se repentiront. Christ est juste et saint, et par conséquent, il est impossible que le péché soit présent en lui. C'est en cela que sa mort sacrificielle a satisfait le juste jugement de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, Christ a répondu à la volonté divine. Il a livré sa vie en sacrifice, avec obéissance. Il a même crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment précis, Christ expérimentait la séparation d'avec Dieu pour le péché de toute l'humanité. Il se charge de payer la dette dont les hommes ne peuvent s'acquitter. Christ a remis son sort entre les mains de son Père. Et ce qui est au Père, c'est l'œuvre de l'Éternel qui fait prospérer son Fils entre ses mains. Christ verra une postérité. Il est question d'une postérité spirituelle, celle des croyants de tous les temps, en tout lieu, qui par la foi croient au sacrifice de Christ pour le pardon de leurs péchés. Et non d'une postérité charnelle, comme certains faux évangiles le suggèrent. Christ prolongera ses jours. Pour Christ, il n'y a pas de mort. L'agneau divin ne meurt pas. D'ailleurs, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Romains 6, verset 9 nous dit « Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Ésaïe 53, 11 « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » À cause du travail de son âme. Une âme dans la souffrance, qui travaillait au plan de salut et qui allait voir du résultat à son travail, le salut des hommes. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ, son Fils, élevé comme prince et sauveur. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ était annoncé par les prophètes et est venu faire la volonté de Dieu pour mener à bien le plan de rédemption de l'humanité, voulu par Dieu. Par sa connaissance, donc c'est par le nom de Jésus-Christ que nous croyons dans le seul vrai Dieu. Ici, l'Éternel reprend la parole en disant « Mon serviteur juste ». C'est par la connaissance de l'œuvre de ce serviteur juste, Dieu fait homme, donnant sa vie pour l'humanité, que nous sommes justifiés contre le fléau du péché qui ravage nos vies et nous mène à la mort. Le serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Christ, par sa mort et sa résurrection, justifie le pécheur. Dieu propose un unique médiateur, Jésus-Christ, par lequel les péchés des hommes peuvent être pardonnés à tous. Mais valable et efficace uniquement pour ceux qui croient en son sacrifice et à son œuvre rédemptrice. Il ne s'agit pas là de Marie, elle n'a pas été crucifiée sur une croix pour faire le pardon des péchés aux repentants. Seul Dieu peut pardonner les péchés. À qui veut bien le croire, la paix et la réconciliation sont possibles avec Dieu le Père, qui a envoyé son Fils par pure grâce. Il faut accepter Christ comme sauveur pour être déclaré juste. C'est à partir de ce moment que l'homme peut s'attendre à ce que Dieu le purifie progressivement, par l'œuvre du Saint-Esprit envoyé et promis par Dieu et qui opère la transformation dans le fidèle. C'est cela, se charger de nos iniquités. C'est Christ qui fait la purification de nos péchés en intercédant pour nous. Il faut nécessairement qu'il y ait repentance. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Le serviteur jusqu'ici méprisé, qui s'est livré aux puissants qui l'ont condamné, sera glorifié. L'Éternel donnera à Christ sa part avec les grands et les puissants. Serait-ce une part de gâteau inique ? Certainement pas. C'est en vertu de la sainteté de Christ que l'Éternel lui donne tout pouvoir sur les nations. Sinon, il ne le considérerait pas comme son serviteur juste. Il s'est livré lui-même à la mort. Aucun homme n'aurait pu le faire si ce n'est Dieu incarné. L'homme ne pouvait pas tuer Jésus, la mort non plus. Fait péché pour nous, il a connu pire que l'enfer. Et parce que Christ a accepté d'être séparé pour un temps, nous ne serons jamais séparés de Dieu si nous l'acceptons. Celui qui est mort et ressuscité régnera un jour de manière visible sur terre. Et il partagera avec les grands et les puissants le butin. Ils viendront porter les offrandes à Jérusalem. En envoyant en Christ, le but pour les Juifs était qu'ils comprennent l'amour que Dieu le Père leur porte au travers du sacrifice de son propre Fils. Le reste juif le reconnaîtra au travers d'une humiliation profonde et à la condition du repentir. Ils prendront conscience à ce moment qu'ils sont véritablement aimés pour leur transgression. Jésus était blessé pour nos péchés, il était méprisé, mais il a pour vous la solution. La mort a été vaincue et étant ressuscité, il n'attend plus que de vous pardonner vos péchés. Le message est clair, une œuvre formidable a cours aujourd'hui par la foi en Christ, qui a obtenu la rédemption aux hommes par son sang versé. Alors je t'invite à réfléchir à l'amour que Dieu te porte. Par sa résurrection, Christ a bâti un pont entre l'homme et Dieu, la mort et la vie, entre le désespoir et l'espérance, un pont qui conduit au-delà de la mort et au-delà de la violence. En marchant à sa suite, nous pouvons aussi construire des ponts. Et quand cela ne nous semble pas possible, n'oublions pas que rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas que par nos paroles que nous rendons témoignage à la résurrection, mais c'est aussi par nos vies en devenant des témoins de l'amour du Christ pour chaque homme. Alors mettons-nous en marche, nous pouvons procurer la paix, amener la réconciliation, la communion, là où il y a la haine, la division et la séparation. Rendons gloire à Dieu en parlant du ressuscité autour de nous. Nous venons de voir les quatre aspects de la vie et de l'œuvre de Christ. Pour rappel, le serviteur humble et méprisé, le serviteur brisé et crucifié, le serviteur mort et enseveli, et le serviteur ressuscité et glorifié. Quel message pour nous aujourd'hui ? Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous n'avons pas été méprisés comme Jésus le fut. Il s'est humilié jusqu'à la mort, celle de la croix, pour acquitter le pécheur coupable et repentant. Il est mort, a été enseveli. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Il est vivant, avec son corps de gloire, et un jour il reviendra pour son règne terrestre. Beaucoup de gens aiment les histoires des super-héros fictifs, mais ici c'est de la vérité dont il s'agit. Une vérité révélée à Ésaïe 7 siècles avant l'incarnation de Christ. Jésus, le serviteur humble, envoyé par Dieu, pardonne les péchés, donne la vie éternelle et ressuscite les morts. Êtes-vous de ceux qui veulent croire en ce serviteur venu sauver les brebis errantes? Alors, croyez au Seigneur Jésus. Je voudrais prendre un instant dans la prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes jour après jour. Tu renouvelles aussi notre intelligence. Et Seigneur, donne-nous de comprendre davantage qui tu es, comprendre ta sainteté, comprendre quelle est ta volonté pour nous, Seigneur. Je veux te demander à ce que ces paroles puissent résonner en nous profondément. Je veux aussi, Seigneur, te demander de bénir mes frères et sœurs, Seigneur, et sois un tuteur, Seigneur, pour eux, qu'ils puissent vraiment s'abandonner à toi et se laisser grandir, Seigneur, et se laisser toujours attirer davantage par ta personne et ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ, amen.